Cette semaine, j'ai eu un échange email avec une des lectrices du blog. Elle m'a fait part d'une difficulté qu'elle rencontre pour choisir une voie professionnelle épanouissante. Elle a été élevée dans un environnement qu'elle appelle élitiste, environnement dans lequel on a l'idée qu'il existe une certaine hiérarchie sociale et que certains métiers sont plus valorisants que d'autres. Cette personne sait théoriquement que son bonheur est plus important que ce concept de hiérarchie sociale. Mais dans la pratique, cette idée lui reste dans la tête et elle a du mal à s'en détacher pour prendre des décisions. Elle a tendance à prendre ce critère en compte pour choisir sa vie professionnelle. Aujourd'hui, on va donc parler de cette pression sociale, du regard des autres et surtout de comment dépasser ça pour se créer une vie professionnelle épanouissante. Bienvenue sur le podcast, je suis Isis du blog lesnouveautravailleurs.fr. Et j'ai créé ce podcast pour t'aider à devenir plus épanouie dans ta vie professionnelle. Alors, d'où vient cette pression sociale? Pourquoi existe-t-elle et perdure-t-elle de génération en génération? Pour comprendre d'où vient la pression sociale, il faut comprendre par qui elle est exercée, pour comprendre les motivations qu'il y a derrière. La pression sociale, elle vient de six sources. Nos parents, d'autres personnes de la famille, les médias, les profs, conseillers d'orientation, établissements scolaires, donc en gros les professionnels de l'éducation et de l'orientation, les entreprises, et le dernier, je le garde secret car il va te surprendre. Chacune de ces sources a ses propres raisons d'entretenir la pression sociale, donc on va les passer une par une. Pour commencer, nos parents. Nos parents, ils veulent le mieux pour nous et nous savoir en sécurité. Leurs intentions sont a priori bonnes quand ils nous poussent à choisir des voies professionnelles d'élite. C'est parce qu'ils se disent qu'en faisant ça, on aura la sécurité d'un CDI, qu'on pourra monter les échelons et avoir la sécurité financière. Avec tout ça, on devrait bien vivre et ne pas finir à la rue. Je vais te donner mon exemple personnel. Mon père est né pendant la Deuxième Guerre mondiale. Quand il était petit, il avait faim, parce que la famille n'avait pas beaucoup d'argent pour acheter de la nourriture. Et plus tard, dans sa vie professionnelle, il a connu différentes situations. Il a été employé, mais aussi artisan à son compte. Il a connu les difficultés du fait d'être à son compte, donc quand il est retourné en CDI en entreprise, ça lui a apporté une certaine sécurité. Et du fait de cette histoire, je comprends que mon père m'ait incité à trouver un CDI, à avoir un poste bien placé, pour pouvoir avoir une certaine sécurité et potentiellement une meilleure retraite que lui. Si tes parents font partie des gens qui te mettent une certaine pression ou, disons, t'incitent à aller vers telle ou telle voie, essaye d'en apprendre plus sur leur histoire. Pourquoi sont-ils si attachés à ce que tu réussisses? Les deuxièmes sources de pression sont les autres personnes de la famille. Donc les parents sont un cas particulier car ils ont la mission de nous élever et nous aider à survivre dans ce monde. Mais parfois, d'autres membres de la famille aussi nous parlent de notre orientation et essayent de nous donner des conseils. Quelle est leur motivation à eux? Ça dépend de qui il s'agit. Certains vivent par procuration. Ils aimeraient nous voir accomplir quelque chose qu'eux-mêmes n'ont pas pu accomplir. Nous voir aller plus loin qu'eux pour qu'ils puissent être fiers de ça. Ça vaut pour les grands-parents, mais aussi des cousins et cousines, oncles et tantes, frères et sœurs plus âgés, qui ont choisi une voie différente et sont curieux de voir quelqu'un de la famille réussir dans cette voie-là. Par exemple, quand j'étais au lycée, ma grand-mère me disait « Il faut que tu fasses Polytechnique, c'est la meilleure de toutes les écoles ». Elle avait été technicienne de surface toute sa vie. Je pense qu'elle a vu un certain potentiel en moi de faire quelque chose qu'elle trouvait grandiose, mais n'avait pas pu le faire elle-même. La troisième source de pression, ce sont les médias. Pour obtenir de l'audience, les médias ont besoin de choisir des sujets qui vont provoquer des émotions, des réactions. Pour eux, ça va plus marcher de dire « qui sont ces étudiants de l'élite un jour dans la vie d'un étudiant HEC ?» En introduisant du mystère, voire une espèce de mysticisme autour du phénomène des classes élites, alors que s'il disait « on part à la rencontre des étudiants d'une école de commerce », on se dirait « ouais, bof, ok, et alors ?» Mais de placer les étudiants d'HEC comme des personnes particulières qui ont accompli quelque chose de particulier, c'est beaucoup plus sensationnel, on a envie de connaître l'histoire. Ensuite, on a l'État. L'État a intérêt à former des génies pour pouvoir concurrencer d'autres pays dans des domaines techniques et pour que les entreprises gagnent plus d'argent et augmentent le PIB du pays, ce qui renforce l'image de puissance du pays. L'État a intérêt à valoriser l'élite pour leur donner envie de continuer et d'aller plus loin. Et tout ça, ça peut se ressentir ou s'entendre dans des discours, par exemple. Après, bon, ça dépend aussi du parti politique du président à ce moment-là. On a ensuite les professionnels de l'éducation et de l'orientation. Donc, un prof, quand il voit un bon élève, il a envie de l'aider à aller le plus loin possible, parce que ça fait partie de sa mission, et ça peut lui apporter une petite fierté personnelle d'avoir contribué à élever cette personne. Les conseillers d'orientation, à mon sens, eux, sont le reflet du fonctionnement global. S'ils voient un bon élève, ils l'envoient dans les classes élites parce que c'est ça qu'on fait. Je me rappelle la première fois que j'ai défié ce système. J'étais en troisième, donc je suis allée voir la conseillère d'orientation avec ma mère pour savoir quelle filière je devais choisir au lycée. Donc je devrais choisir au lycée. J'avais de bonnes notes à peu près partout, donc elle m'a dit « Ah, ben vous, il faut que vous fassiez S, bac scientifique. » Moi, j'étais un peu surprise, je voyais pas pourquoi, alors que j'avais des bonnes notes partout, on me disait d'aller faire du scientifique. Donc j'ai demandé pourquoi, et elle m'a expliqué que le bac scientifique, c'était la meilleure filière, car c'est celle qui apportait les meilleurs débouchés derrière. En sortant, j'ai dit à ma mère que moi, je voulais faire la filière économique et sociale parce que je n'étais pas fan de toutes les matières scientifiques. Je préférais rester sur quelque chose de plus généraliste où je me sentais plus à l'aise. Et ensuite, on a les établissements scolaires. Eux ont intérêt à nous voir réussir pour augmenter leur popularité et continuer d'avoir des étudiants qui s'inscrivent chaque année pour pouvoir continuer d'exister. C'est d'autant plus typique dans les établissements privés comme les écoles supérieures de commerce qui ont des partenariats avec de grandes entreprises qui viennent chercher leurs futurs salariés dans les écoles. En soi, tout le monde s'y retrouve, les étudiants ont plus facilement des stages et des jobs car ils bénéficient de la renommée de l'école et du partenariat, les entreprises ont des candidats de qualité et l'école se fait financer par les étudiants et les entreprises. Mais c'est un peu biaisé parce que l'école incite à rejoindre certains types d'entreprises, souvent de grandes entreprises, et favorise moins d'autres voies comme l'entrepreneuriat. Ça fait le lien avec la sixième source de pression, les entreprises. Quand elles recrutent, avoir un certain diplôme est un critère de recrutement. Et parfois même avoir uniquement le diplôme des trois premières grandes écoles, de l'une de ces trois premières grandes écoles, pour avoir un job dans une bonne entreprise, une entreprise renommée, il faut donc avoir le diplôme qui permet d'y accéder. Et enfin, la dernière source de pression que j'ai gardée secrète, c'est nous-mêmes. Et là, tu dois être surpris ou surprise et te dire « En quoi est-ce que je suis moi-même une source de la pression que je ressens de la part de l'extérieur ?» Eh bien, à cause de toutes les autres sources de pression précédentes. Je crois que l'on intériorise le concept d'échelle sociale, l'idée que l'on doit absolument obtenir un diplôme, tel diplôme, le meilleur diplôme. Si ce concept nous paraissait absolument inacceptable, on le rejetterait violemment. Mais on ne le rejette pas, car quelque part, on y croit. Et on y croit parce qu'on évolue avec tout ce que l'on nous dit, nos parents, notre tonton ou notre grand-mère, nos profs, les médias, etc. Donc, à force que l'on nous parle de certaines idées de la réussite, on apprend à y croire nous-mêmes et on vit avec. Avant de passer à la suite, je te propose de te poser les questions suivantes. De qui ressens-tu la pression sociale? Sous quelle forme tu la ressens? Qu'est-ce qu'elles t'ont dit, ces personnes? Qu'est-ce que tu ressens quand elles te disent ça? Et à ton avis, pourquoi est-ce que tu ressens ça? N'hésite pas à mettre le podcast en pause maintenant et à prendre quelques minutes pour répondre aux questions par écrit de préférence, ça aide le cerveau à réfléchir. Je fais Juste une mini-pause pour te dire que si tu aimes le podcast, ça m'aiderait beaucoup à le développer que tu t'y abonnes sur ta plateforme de podcast préférée, iTunes Podcast, Podcast Addict sur Android ou Stitcher, et que tu laisses une évaluation à 5 étoiles pour que le podcast puisse remonter dans les résultats et qu'on le trouve plus facilement. Aujourd'hui, j'aimerais t'aider à dépasser ça, à fonctionner en fonction de tes vrais besoins et pas en fonction du regard des autres et de la pression sociale. Car c'est un des freins principaux qui nous empêche d'être épanouis au travail. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que c'est si difficile pour nous de nous détacher de cette pression sociale, de prendre des décisions sans la prendre en compte? Pourquoi, alors qu'on sent que le fonctionnement ne nous va plus, qu'on est conscient que l'on est influencé par ce concept de la hiérarchie sociale et cette idée qu'il y a des métiers qui sont meilleurs que d'autres, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à prendre des décisions autrement que sous l'influence de ce concept? Avant que je te donne la réponse selon moi, je te propose de te poser la question suivante. Selon toi, pourquoi prends-tu des décisions qui suivent la pression que tu reçois? À nouveau, n'hésite pas à reprendre quelques minutes pour répondre à la question, car tu apprendras plus en te posant la question à toi-même qu'en écoutant tout ce podcast et toutes mes réponses, à mon avis. Maintenant, voici mon avis sur la question. Ce que je vais dire, c'est que de la théorie. Je ne le tire pas de livres ou d'articles que j'aurais lus, mais peut-être dans certains vécus et surtout de mon impression, en essayant d'imaginer pourquoi on réagit comme ça. Si tu as une expérience différente de ce que je vais dire, j'aimerais beaucoup l'entendre pour venir enrichir les futurs contenus. Tu peux m'écrire à isis@lesnouveautravailleurs.fr pour me le partager ou l'écrire en commentaire sous l'article qui porte le même nom que ce podcast sur lesnouveautravailleurs.fr. À mon sens, il y a quatre raisons pour lesquelles on prend des décisions en fonction de la pression sociale plutôt que de notre épanouissement personnel. Premièrement, on n'est pas assez convaincu soi-même. Si on n'est pas sûr de soi, on peut vite se faire déstabiliser par quelqu'un. Si on ne trouve pas de justification, de bonnes raisons à notre décision ou notre envie, on peut se dire que l'autre personne a raison, que ce n'est pas une bonne idée et abandonner sa décision. Pour moi, la solution ici est de ne pas abandonner tout de suite. Car parfois, la réponse met du temps à arriver, mais si on a pris une décision qui nous paraissait juste à un moment, on avait probablement raison. On était peut-être sur la voie de l'épanouissement professionnel, personnel. Deuxièmement, comme on ne se connaît pas, on se rattache à d'autres critères que ceux de notre épanouissement. Je crois que si on ne connaît pas bien ses besoins pour sa vie professionnelle, on peut avoir tendance à se raccrocher aux mauvais critères, les seuls qu'on connaît. Quand on nous apprend à chercher un emploi, on nous apprend à juger les critères suivants. Le niveau de salaire, le niveau de responsabilité, la renommée de l'entreprise, le fait que le poste utilise les compétences qu'on a développées. Mais tout le monde n'a pas les mêmes envies ou besoins de salaire, les mêmes envies de responsabilité, n'a pas forcément comme désir profond de travailler dans une grande entreprise, et on a pu se tromper sur les compétences qu'on a développées ou les avoir développées par hasard parce qu'on ne savait pas quoi faire d'autre. Ces critères sont trop standardisés pour nous correspondre en tant que personne unique. Les seuls critères qui peuvent contribuer à notre épanouissement sont ceux que l'on a su apprendre à déceler. Mais si on ne travaille pas à les déceler, à savoir de quoi on a besoin, alors on n'a pas d'autre choix que de se raccrocher aux critères des autres. Troisièmement, on cherche de la reconnaissance et la validation des autres. Quand on est enfant et qu'on fait un dessin, on est super content si nos parents nous disent que le dessin est magnifique. Ça renforce notre estime de nous. Si on ne nous dit pas assez de ces choses quand on est enfant, on peut avoir un déficit d'estime de soi. Moins on a d'estime de soi, plus on cherche la validation des autres. C'est-à-dire qu'on aura du mal à faire quelque chose si les gens qui sont importants pour nous ne nous soutiennent pas. Et par peur qu'ils ne nous soutiennent pas, on peut donc avoir tendance à faire les choses qu'on sait qu'ils approuveront d'avance. Moins on a d'estime de soi, et plus on cherche aussi la reconnaissance des autres. C'est-à-dire qu'on fait des choses dans l'espoir de recevoir de l'attention, des compliments, des merci ou des bravos. Dans ces deux cas, au lieu de faire les choses pour soi-même, on les fait pour les autres. Dans cette situation, c'est difficile de changer de posture, ça ne se fait pas du tout du jour au lendemain. À mon sens, ce qui aide, c'est d'apprendre à se connaître, car ça aide à devenir convaincu de la bonne chose à faire pour soi, au lieu de se référer à ce qu'on devrait faire pour les autres, pour obtenir quelque chose des autres. Et enfin, quatrièmement, on est formaté pour faire ce que l'on doit faire plutôt que ce que l'on veut faire. Depuis qu'on est petit, on suit un schéma où ce sont les adultes qui nous disent quoi faire, et nous, on doit suivre ça. On nous fait aller à l'école, on nous impose les matières à étudier, qu'elles nous intéressent ou non, on nous guide et influence sur les orientations et voies professionnelles à prendre. Les moments où on nous propose de faire de l'introspection, de réfléchir à ce qu'on aime, ce dont on a besoin, d'analyser une expérience de notre vie sont très rares. On a donc pris l'habitude que d'autres nous disent quoi faire et qu'on doive faire ce que les autres nous disent. On n'a pas pris l'habitude de se questionner sur ce qu'on a envie de faire réellement, sur ce qui nous anime sincèrement. Ici aussi, à mon sens, la solution, c'est d'apprendre à se questionner sur soi-même pour apprendre à connaître ses envies et pouvoir les intégrer dans sa vie. Pour aller plus loin, j'aimerais te raconter comment moi, j'ai dépassé ça pour faire ce qui me plaisait vraiment. Quand je dis ça, je parle de cette fameuse pression sociale et le regard des autres. En entendant ça, tu dois peut-être t'imaginer que j'ai fait preuve de beaucoup de courage pour affronter mes parents, les conseillers d'orientation et toutes les autres personnes, d'oser vivre selon mes principes en me désengageant du système dans lequel j'avais évolué. Il y a un peu de vrai là-dedans, mais je crois que la vraie histoire est beaucoup plus terre-à-terre et pragmatique. Pas vraiment une héroïne sortie du commun des mortels un beau jour. Il y a 5 choses qui m'ont aidée à dépasser la pression sociale et le regard des personnes qui attendaient un bel avenir pour moi. La première, c'est que j'ai commencé par prouver que j'en étais capable. Au début, j'ai quand même pas mal suivi les orientations d'élite et les belles choses qu'on attendait de moi. J'ai eu mon bac avec mention très bien, je suis allée en classe préparatoire, j'ai intégré la 6e école supérieure de commerce de France en étant classée 91e sur 4000. À l'issue de mon école, j'ai été embauchée en CDI et avec un bon salaire par rapport aux autres jeunes diplômés en start-up. Toutes ces choses-là, je ne les ai pas faites que parce que c'était ce qu'on attendait de moi. D'ailleurs, je n'ai jamais vraiment ressenti de pression de la part de l'extérieur parce que j'ai toujours été une bonne élève et que réussir fait partie de ce qui a construit mon estime de moi. Donc pour moi, c'était normal d'aller chercher ces choses-là, d'essayer d'exceller. Et quelque part, j'avais envie de prouver que j'en étais capable. Ce n'est qu'une fois que je suis arrivée au bout du processus, avoir un CDI bien payé, que j'ai considéré que j'avais accompli toute ma checklist et me suis autorisée à aller vers autre chose. J'en viens au deuxième état d'esprit qui m'a permis de dépasser la pression sociale. Quand je suis arrivée au bout du processus, avoir un CDI bien payé, j'ai commencé à me concentrer sur d'autres choses. Quand on rentre sur le marché du travail, on n'a plus ce chemin tout tracé où on passe chaque année à la classe supérieure avec la meilleure moyenne possible. Si on est dans une grande boîte, on peut essayer de monter les échelons, mais moi j'étais dans une start-up, donc mon évolution possible était plus limitée. Je pouvais monter un peu en responsabilité, mais pas des masses. Donc au lieu de penser vertical, c'est-à-dire je monte les échelons, j'ai commencé à penser horizontal, à savoir comment je peux me développer personnellement dans ce contexte, en développant mes compétences, en faisant des projets qui m'intéressent, etc. La troisième raison pour laquelle j'ai pu dépasser la pression sociale, c'est que j'ai toujours agi de façon à apprécier le chemin. Tout à l'heure, je racontais comment j'ai défié le conseil de la conseillère d'orientation en choisissant d'aller en filière économique et sociale plutôt que scientifique. Et ce choix, c'était une double tactique. D'un côté, je savais que j'étais meilleure dans les matières de cette filière que dans les matières scientifiques. Je savais donc que j'avais plus de chances d'avoir de bonnes notes en ES qu'en S, et je voulais garder de bonnes notes à la fois pour mon estime personnelle et pour avoir un meilleur dossier en sortant du lycée. Et d'un autre côté, je savais que je n'aimais pas trop les matières scientifiques. Pour prendre plus de plaisir à être au lycée chaque jour, je préférais aller occuper mes journées avec des matières que j'aimais davantage. Ensuite, quand j'ai dû choisir ma prépa, j'ai d'abord pensé à HEC, puis j'ai entendu dire qu'il y avait beaucoup de maths, beaucoup de philo, et que les profs incitaient les élèves à se dépasser en étant sévères avec eux. Je n'étais pas bonne en maths et en philo, donc je préférais éviter ça. Et je savais que moi, je travaillais bien quand on m'encourageait, quand on me disait que j'avais fait du bon travail, pas en me mettant 2 sur 20 et en me disant que je pouvais bien faire bien mieux. J'ai donc choisi d'aller en classe préparatoire à l'École normale supérieure de Cachan plutôt qu'en prépa HEC. Bon, en fait, il y avait beaucoup de maths et j'ai fini à 2 de moyenne dans cette matière parce que j'avais tellement décroché que je comprenais plus rien. D'ailleurs, dès la première année, je me suis rendu compte que l'ENS, c'était pas pour moi, car tout était très théorique et je commençais à avoir besoin de choses plus concrètes. Heureusement pour moi, cette prépa était un double cursus où la moitié des cours avaient lieu à la prépa et l'autre moitié à la fac. Grâce à mon inscription à la fac, j'ai pu passer les concours d'école supérieure de commerce. Et comme je suis passée par cette voie, je me suis retrouvée dans une meilleure école que les personnes que je connaissais qui étaient allées en prépa HEC, parce que le concours fac est plus facile que le concours prépa. Ce n'était pas prémédité, je n'avais pas fait mon choix que pour pouvoir... Ce n'était pas prémédité, je n'avais fait mon choix que pour pouvoir apprécier le chemin et j'ai fini avec une super destination. Ce désir d'apprécier le chemin vient probablement plus de ma personnalité que d'autres choses. J'ai besoin d'apprécier ce que je fais dans ma vie. Si quelque chose ne me convient pas, je n'aime pas vivre avec cette contrainte et je trouve des moyens de la contourner. C'est ce que j'ai fait avec ma filière de lycée. Je voulais continuer d'avoir le prestige des bonnes notes, mais sans les matières scientifiques. Puis je voulais le prestige d'être en prépa et de pouvoir intégrer une grande école, mais sans qu'on détériore mon estime de moi avec de la sévérité. Cette attitude m'a permis d'apprendre à connaître mes besoins. Et connaître ses besoins, c'est essentiel pour choisir des voies professionnelles qui vont nous rendre heureux. Si on ne se connaît pas, on n'a pas les outils pour prendre les bonnes décisions. Avoir le désir d'apprécier le chemin permet aussi de centrer ses décisions autour de son bien-être plutôt que des attentes des autres. Est-ce que toi, tu penses avoir ce désir d'apprécier le chemin? Si ce n'est pas le cas, je t'invite à faire la chose suivante la prochaine fois que tu as une décision à prendre. Imagine que tu te dédoubles et que ton double est quelqu'un qui veut absolument apprécier le chemin. Quelle décision prendrait ton double pour apprécier le chemin? À ton avis, comment se sentirait ton double en prenant cette décision et en vivant cette vie? Et à ton avis, comment te sentiras-tu toi en prenant une décision qui répond plutôt à ce que tes proches ou la société attendent de toi? Qu'est-ce que tu conclus de tout ça? La quatrième chose qui m'a permis de dépasser ce qu'on attendait de moi, c'est que j'ai continué d'apprendre à me connaître en tirant des leçons de chaque expérience professionnelle. À chaque fois que j'ai fait un stage, je me suis demandé ce que j'avais apprécié et voulais retrouver dans ma prochaine expérience, et ce qui ne m'avait pas plu et que je voulais éviter dans l'expérience suivante. Par exemple, en 2015, j'ai fait mon stage de fin d'études en tant que chef de projet web dans une start-up. Ce que j'ai aimé dans ce stage, c'était de travailler dans une petite entreprise, d'être sur un projet web, d'être autonome la majorité du temps et de concevoir le site web. Ce que je n'ai pas aimé, c'était les valeurs non partagées avec mon manager, ses coups de pression et de colère. Pour mon expérience suivante, j'ai gardé les points positifs en trouvant un boulot relativement autonome dans une start-up web et j'ai enlevé les points négatifs en rejoignant une start-up dont les valeurs étaient déjà plus proches des miennes. Comme j'ai tiré des leçons à chaque expérience, à chaque tournant, j'ai enlevé de plus en plus de points négatifs et ai augmenté mon bien-être et mon épanouissement au fur et à mesure. La cinquième chose qui m'a aidée, c'est que j'ai commencé à suivre des personnes qui disaient des choses qui m'inspiraient et à côtoyer des milieux qui m'intéressaient mais n'étaient pas forcément habituels dans mes études. En 2014, je me suis prise de passion pour l'entrepreneuriat. J'étais en stage dans une grande entreprise, mais mon hobby préféré était de lire des livres sur les entrepreneurs et d'aller à des apéros entrepreneurs à Paris, parce que j'étais fascinée par leurs idées et ce milieu-là. Je ne voulais pas spécialement devenir entrepreneur tout de suite, je ne me sentais pas de faire ça, mais ça m'attirait, alors je côtoyais le milieu pour le plaisir. Le jour où je suis devenue entrepreneur, s'est passé comme une lettre à la poste, car ce n'était pas un milieu qui m'était complètement étranger. Ça faisait 3 ans que je côtoyais des entrepreneurs, que je participais à des startup week-ends, qui sont des événements où on crée une boîte en 48 heures avec une équipe rassemblée pendant le week-end. Et de la même manière, à cette période, j'ai commencé à regarder la chaîne YouTube d'Olivier Roland. Il parlait de développement personnel et d'entrepreneuriat. 2 ans plus tard, c'est grâce à lui que j'ai découvert le blogging, le fait qu'on pouvait voyager et travailler à distance avec ce métier, et grâce à qui j'ai pu réaliser ce double rêve en rejoignant sa formation. Donc je t'invite fortement à prendre le temps de côtoyer les milieux qui t'intéressent, que ce soit en allant à des événements en présentiel, en regardant des vidéos YouTube, en lisant des newsletters ou en écoutant des podcasts, ou tout ça à la fois. Peut-être que les nouveaux travailleurs est une de ces sources pour toi, si tu t'intéresses à l'épanouissement professionnel et aux modes de travail alternatifs. Peut-être qu'il y en a d'autres, peut-être dans des domaines spécialisés. Pour les choses visuelles, tu peux suivre ça sur Instagram, sur Pinterest. Bref, à toi de trouver les médias et les personnes qui sont des sources d'inspiration pour toi. Comme tu peux le voir avec mes exemples, rien que le fait de le suivre, de les suivre est déjà un pas vers ton épanouissement professionnel car ça peut t'amener là où il faut plus tard. Le dernier point, un peu surprenant à mon sens, est que j'ai appris à assumer mes positions en discutant avec les personnes qui continuaient de me renvoyer vers l'autre fonctionnement élitiste. Je te le dis tout de suite, ces conversations ont été des conversations énervantes pour moi. Ça m'a agacée car j'avais le sentiment de devoir me justifier et que je sentais que ça bouillonnait en moi. Mais à cause de cette émotion, je me suis défendue en exposant mon point de vue et à l'issue de la conversation, je sentais que ma conviction que je faisais les bons choix était renforcée. Par exemple, un jour, un membre de ma famille m'a dit « Mais t'as pas l'impression qu'avoir fait toutes ces études alors que maintenant tu entreprends, c'est un échec ?» Donc moi j'ai bouillonné, parce que je déteste qu'on doute de moi, de mes décisions, qu'on me dise que j'ai mal fait quelque chose ou qu'on me parle d'échec. Du coup, j'ai répondu en me justifiant et en exposant mon point de vue. Je n'avais même pas conscience de ce point de vue avant d'avoir cette discussion. C'est l'émotion et le désir de me justifier qui a réveillé ça. Le point positif de tout ça, c'est que grâce à cette discussion, je me suis rendu compte de ce en quoi je croyais vraiment. Et j'ai pu assumer cette position par la suite. Pour terminer, synthétisons un peu ce qu'on a vu. La pression sociale existe et vient de personnes externes qui ont toute une motivation à créer cette pression. Nos parents, les autres membres de notre famille, les professionnels de l'éducation et de l'orientation, l'État et les médias. La pression sociale est entretenue par nous-mêmes parce qu'on l'a intériorisée. Il y a 4 raisons potentielles pour lesquelles on n'arrive pas à se défaire de la pression sociale. On n'est pas assez convaincu soi-même, on ne se connaît pas, donc on se rattache à d'autres critères que ceux de notre épanouissement. On cherche de la reconnaissance et la validation des autres. On est formaté pour faire ce que l'on doit faire plutôt que ce que l'on veut faire. Toi, tu as au moins 7 outils à ta disposition pour essayer de dépasser cette pression sociale. Décider ce qui permettra de faire tes preuves auprès de tes proches, le faire, puis passer à ce que tu as vraiment envie de faire. Deuxièmement, apprendre à penser horizontal au lieu de penser vertical, c'est-à-dire comment est-ce que je peux me développer personnellement autrement qu'en montant les échelons et en obtenant des augmentations de salaire. Troisièmement, quand tu dois prendre une décision, imagine avoir un double dont le but est de prendre autant de plaisir avec le chemin qu'avec la destination, et demande-lui ce qu'il ou elle choisirait comme chemin. Quatrième outil, tenir un journal, papier ou digital, dans lequel tu analyses chaque expérience. Qu'est-ce que j'ai aimé, pas aimé dans ce stage, dans ce boulot, dans ce bénévolat? Cinquième outil, suivre des médias et des personnes qui t'inspirent et aller à des événements pour côtoyer les milieux qui t'inspirent. Sixième outil, te défendre quand quelqu'un te titille, puis noter les convictions personnelles que cette conversation a fait sortir. Et septième et dernier outil, ne pas abandonner tout de suite quand quelqu'un essaye de te convaincre de changer ta décision pour revenir dans la voie habituelle. Te demander laquelle des deux décisions va le plus te rendre heureux ou heureuse. Le maître mot pour terminer ce podcast, c'est d'apprendre à te connaître. C'est la clé de l'épanouissement professionnel. Trouve le moyen qui te convient le mieux pour apprendre à te connaître, mais essaye vraiment de te pencher sur la question. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. N'hésite pas à me dire ce qu'il t'a apporté ou ce qui manque selon toi en laissant une évaluation sur iTunes, un commentaire sur l'article qui porte le même nom ou en m'écrivant à isis@lesnouveautravailleurs.fr. Je répète aussi que si tu aimes le podcast, ça m'aiderait beaucoup à le développer que tu t'y abonnes sur ta plateforme de podcast préférée, iTunes, Podcast Addict ou Stitcher. Et que tu laisses une évaluation à 5 étoiles pour que le podcast puisse remonter dans les résultats et qu'on le trouve plus facilement. Sur ce, rendez-vous au prochain épisode. Salut !1, 2, 3